Bonjour à tous. Je suis vraiment très très heureux d'être là avec vous ce soir. Alors ce qui est drôle pour moi, c'est que demain nous faisons la même chose à Notre-Dame des Victoires. Donc c'est un petit entraînement. Alors pas avec les mêmes textes, mais à peu près de la même façon. Voilà. Parce qu'on a découvert depuis quelques années que ces assemblées où on louait, comme on vient de le faire tout simplement, et où on commentait l'Écriture, nous faisaient un bien fou et nous préparaient à la Pentecôte, et du coup les paroissiens et du coup le conseil pastoral a décidé d'amplifier la soirée de la Pentecôte, la veillée de la Pentecôte. Alors on lit des textes un peu comme à Pâques. Je vous dis ça parce que avant d'entrer dans ce que j'avais prévu de vous dire, je ne peux pas ne pas témoigner tout de suite du fait que l'Esprit Saint vraiment a pris ma paroisse et a fait de ma paroisse quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Moi, je suis pas du tout un charismatique délirant. Hein. Je suis un homme d'oraison. Je prie. J'aime la prière de silence et j'aime la solitude. J'ai envie de dire même l'extrême solitude. C'est ça mon truc. Pas du tout de dévisser les ampoules et pas du tout de... Ça, je le fais volontiers maintenant. Il a fallu que je fasse quelques exercices et que je m'ouvre un petit peu. Ça n'a pas été évident. Mais je dois dire que vraiment, l'Esprit Saint a fait des merveilles dans ma paroisse, a fait des merveilles en moi. Et peut-être qu'on aura l'occasion, j'aurai l'occasion, s'il me reste 2 minutes tout à l'heure, pour vous en parler. Toujours est-il que nous sommes à quelques jours de la Pentecôte, dans une situation que les apôtres ont connue. Ils ont connu en fait 2 temps qu'on va connaître nous et qu'on va pouvoir vivre. Le temps juste avant la Pentecôte et le temps après la Pentecôte. Et on sait même ce qui s'est passé à la Pentecôte. Pour nous, ça, je pense que c'est super intéressant parce que si les apôtres nous ont transmis dans l'Écriture, c'est pas seulement un truc historique, journalistique, mais c'est quelque chose que nous sommes invités à vivre. Voilà. Et donc, quand on lit l'Écriture, vous savez bien ça, j'imagine, l'Écriture a une vertu performatrice, c'est-à-dire qu'au moment où Jésus vous dit « aimez-vous les uns les autres », à ce moment-là, vous recevez l'aptitude de vous aimer les uns les autres. Pas mal. C'est ça la puissance de la parole. Après, on peut y répondre ou pas. Mais l'Écriture a une vertu transformante en chacun d'entre nous. Du coup, si vous le voulez bien, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de suivre ce qui s'est passé avec les apôtres et essayer de comprendre un petit peu, de méditer. Et puis peut-être que ça sera pour nous l'occasion, nous-mêmes, d'entrer plus profondément dans ce que l'Esprit Saint veut nous faire vivre. Alors, avant la Pentecôte, ils sont dans quel état ? Avant la Pentecôte, ils vivaient dans la peur. Alors ça, on le sait parce que Jésus est obligé de faire le passe-muraille pour... Vous vous souvenez de l'épisode avec Thomas, Saint Thomas. Jésus fait le passe-muraille, il vient les voir, leur apparaît, etc. Mais en fait, les apparitions de Jésus ne vont pas changer grand-chose. Hein. Ils sont toujours dans leur vie. Ils retournent aux tentes, ils construisent des tentes, ils vont à la pêche. On le sait, hein, dans les Actes des Apôtres, c'est écrit. Et puis, ils sont repliés sur eux-mêmes et ils ont peur de l'entourage. C'est vrai que C'est dangereux. S'ils se font attraper, ça peut se terminer sur la croix en moins de 15 jours, hein, sans procès, sans rien. Alors, petite parenthèse, moi, il y en a un que j'aime énormément, c'est Thomas. Vous savez, Thomas, on dit souvent, moi, je suis comme saint Thomas, je crois que si je vois. Bah, Thomas, il n'a pas cru parce qu'il a vu. Il a vu et il a cru. La foi de Thomas, elle est basée sur une autre chose. Elle est basée sur le fait que pendant qu'il n'était pas là, pendant qu'il était sorti, probablement pour faire les commissions, Jésus est apparu aux autres. Et il s'estime comme un apôtre. Alors il leur dit, mais attendez, si c'est vraiment Jésus qui vous est apparu, Moi, je veux en être. Vous êtes gentils, les amis, mais d'abord, vous n'avez pas eu le courage de sortir dehors, c'est moi qui ai pu faire les commissions. J'aime bien Thomas, parce que ça prouve que lui, c'est un courageux, vous voyez, Thomas. C'est... Il pose des questions. Il se grille un peu auprès des autres, entre parenthèses. Moi, si telle et telle et telle condition ne sont pas remplies, j'y croirais pas. Il se grille. C'est courageux, moi, je le trouve très, très courageux, Thomas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pendant qu'il dit ça à ses frères, eh bien, Jésus entend, puisqu'il va lui répéter la troisième apparition, enfin, le troisième jour, vous connaissez ça par cœur. Troisième jour, Jésus arrive et Jésus cite Thomas, alors qu'il était censé être invisible. Jésus cite Thomas et lui dit, mais vas-y, mets tes doigts, mets ta main. Et il n'est pas dit que Thomas a mis ses doigts. Mais Thomas, il a cru. Pourquoi il a cru? Parce que tout d'un coup, il se dit, mais... Et ça veut dire que pendant qu'on était là et qu'on ne voyait pas Jésus, Jésus était là. Tout d'un coup, il réalise. Et il se prosterne auprès du Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. J'imagine, moi, l'Esprit Saint, à ce moment-là, le touche. Et il s'unit à son Seigneur. Vous voyez, Thomas. Donc, ils vivent dans la peur. Il y a un autre petit détail, moi, qui m'a toujours étonné, c'est que la Sainte Vierge est là. Moi, je me dis, quand on a la Sainte Vierge, la maman de Jésus, juste là, assis à côté, qu'on mange avec elle tous les jours, qu'on passe la journée, qu'on se retrouve le lendemain et que ça dure pendant quelques jours, qu'on a la Sainte Vierge, comment avoir peur? Moi, de mon point de vue, c'est tranquille, hein, t'as la Sainte Vierge, t'as tout, t'es tranquille. Oui, mais pas eux. Pas eux. Les gros gars, là, ils... Quelle est l'attitude de la Sainte Vierge? Je n'en parle pas. Elle est probablement... J'aime beaucoup cette discrétion de la Sainte Vierge. Elle ne rentre pas. Ça va se faire. Ils vont comprendre les apôtres petit à petit. J'imagine qu'elle attend. En tous les cas, c'est ce qu'on sait. On ne sait rien. On ne sait pas la réaction de la Sainte Vierge. Mais eux, vous voyez, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il leur manque quelque chose. Ça, c'est sûr. Il leur manque un truc. Vous voyez? Et pourtant, l'Écriture dit, toujours les actes des apôtres, vous y retrouvez vous-même les références, c'est un peu lourd, je trouve, de citer les références, les apôtres priaient assidûment. Mais ce n'est pas des branquignoles. Ils priaient assidûment, ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils priaient assidûment. Mais ils étaient toujours repliés sur eux-mêmes et ils avaient toujours peur. Alors, ils étaient unis ensemble, c'est vrai, dans la prière. Il y avait déjà un commencement de quelque chose. Moi, ça me fait penser à nos assemblées. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en tous les cas, Notre-Dame des Victoires, tout le monde vient de partout. On vient de partout à Notre-Dame des Victoires. Donc, l'assemblée se constitue, et à chaque fois, je me dis, il y a facilement la moitié de l'assemblée qui se renouvelle à chaque fois. Donc, à chaque fois, je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et ce à quoi j'assiste, c'est qu'il y a une unité petit à petit qui se construit dans l'Assemblée. C'est très très étonnant, vu de mon point de vue. Je ne sais pas si tu vis la même chose, mais non, parce que vous êtes des saints. Ici, je découvre que c'est un peu étonnant. Bref, si on pouvait conclure un petit peu ce premier état avant la Pentecôte, ils n'ont pas changé de vie. Ils n'ont pas changé de vie. Les apôtres. Et ça, c'est très intéressant. Tu ne sais pas ce que Jésus veut faire de toi? Continue. Continue ton travail. Prie assidûment. Reste en présence de la Sainte Vierge. Il ne se passe rien? Ben ça, ce n'est pas notre problème. C'est le problème de Dieu. C'est vrai? S'il veut, il peut apparaître en trois dimensions et faire le capé à ma place, hein, enfin faire le topo à ma place. Non, faisons comme les apôtres. Je pense que c'est une première résolution qui est très belle. Ben ok, d'accord, mais tant que l'Esprit Saint ne s'est pas manifesté, je continue, je vais à mon travail, je reste en présence de la Sainte Vierge. et on essaie d'être unis les uns avec les autres, comme on peut, même si ça change, même si l'assemblée change. Après la Pentecôte, petite photo, si vous le voulez bien, dans quel état ils sont les mêmes gars, les mêmes gros gars? Ils n'ont plus peur, ils se comprennent, ils sont unis, ils évangélisent sans aucune peur. Tous, ils sortent et tous, ils annoncent quoi? Que Jésus est vivant. Et ils y vont, franco de port et d'amarrage, direct. Là où l'Esprit Saint les conduit, dit l'Écriture. L'Écriture les amène à droite, ils vont à droite et ils y vont franchement. Et ça va se terminer par des lapidations, par des prisons, par des crucifixions, et entre-temps des conversions par centaines. La preuve, on est là aujourd'hui, nous. Nous, si on est là, c'est que on est les enfants de la prédication d'un apôtre. Il faut bien se dire ça. Nous, les prêtres, on vient en droite ligne d'un apôtre. Et puis par l'apôtre de Jésus. Moi, c'est la première question que je poserai en arrivant au siège. Duquel je viens? Quel est l'apôtre qui m'a posé les mains sur la tête au nom de mon évêque? Mais, là, j'aimerais bien savoir. Une petite idée sur la question, enfin j'aimerais bien savoir. Donc, le changement est radical. Le changement est radical. La Pentecôte va tout changer dans leur existence. Ils avaient peur, ils ont plus peur. Ils n'étaient pas courageux, ils deviennent courageux. Ils ne savaient pas comment annoncer l'Écriture. Tout d'un coup, boum, ils savent. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, que sait-on du jour de la Pentecôte? Il y a deux choses. D'abord, une promesse de Jésus. Et ensuite, des actes. Un événement. Et ce n'est pas intellectuel, un événement. Pardon, chers frères et sœurs, c'est très stupide, un événement. Les bougies brûlent. Bon, ben voilà. Les bougies brûlent. Vous êtes assis sur des sièges en bois. Voilà. C'est un événement. C'est simple. Donc, en fait, ça va être, je pense, quelque chose de simple, mais qu'on va peut-être avoir du mal à comprendre. En tous les cas, Jésus, du coup, prévoit le coup et leur promet, leur dit « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, qui descendra sur vous. » Alors là encore, moi je me mets à la place des apôtres. Antoine, tu vas recevoir une force, mais alors d'une force que tu vas prêcher toute ta vie l'Évangile. Oui, mais tant qu'on ne l'a pas, vous y avez pensé à ça? Tant qu'il ne l'avait pas reçu, la promesse de Jésus, on va la lire après. Mais au moment où Jésus-Christ de Nazareth vous dit « tu vas recevoir une force et à cause de ça, tu vas témoigner dans ta boîte que Jésus est vivant », ok, ça va être un peu compliqué, mais bon, oui, on a le droit d'être dubitatif, on a le droit d'être... on va voir comment ça va se passer, on va voir ce qui va se passer. On est avant la Pentecôte. Il n'empêche que Jésus a fait cette promesse. Et cette promesse, nous l'entendons. Elle n'est pas faite que pour les apôtres, elle est faite pour chacun d'entre nous. Là, vous qui êtes assis ici, dans cette église, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, qui descendra sur chacun d'entre vous. Chacun. Et c'est un mémorial. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se renouveler. Parce que parfois, il y en a qui disent « Ouais, moi, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, c'est bon, j'ai la totale, maintenant, j'ai plus besoin de l'Esprit-Saint. » Ben ouais, mais bien souvent, on se retrouve dans l'attitude des apôtres avant la Pentecôte. Ben, c'est tout simplement le signe qu'on ne vit pas de ce qui a été vécu à la Pentecôte. Et en fait, si on est honnête, on a envie d'être fort. Vous n'avez pas envie d'être fort? Vous n'avez pas envie d'être fort de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu? Attention, quand je dis fort, hein, c'est simplement devenir capable d'aimer envers et contre tout. Il ne s'agit pas de faire des miracles. Hein. Ça, les miracles, c'est en plus. C'est pour dire que ça vient bien de Jésus. Non, vous allez recevoir une force qui fait que dans votre cœur, la puissance de l'amour de Dieu va se libérer complètement. Et je vous préviens tout de suite, ça va vous surprendre. C'est très surprenant. Si on a le temps, je dirais ce qui se passe dans ma paroisse, c'est bouleversant ce que l'Esprit Saint fait. Mais pour l'instant, on en est là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet événement? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Exactement la situation dans laquelle on est. Tout d'un coup, vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça veut dire qu'ils étaient assis, ils ne bougeaient pas. Ça dépend de Dieu. Et c'est cosmique. Ça veut dire que ça prend toute la personne. Ce n'est pas uniquement un truc, un pélo à comprendre. Ce n'est pas uniquement un truc affectif, ce qui va leur arriver. C'est cosmique. C'est un événement cosmique. Ça veut dire que ça va prendre leur être. Ça va prendre leur espace. Ça va toucher leur espace. Ça va toucher leur espace familial. Ça va toucher leur espace affectif, leur espace amical. Ça va toucher tout ce qu'il y a autour d'eux. C'est cosmique. Alors, je ne sais pas si le jour de la Pentecôte, vous allez avoir J'espère que ça ne craque pas trop le toit. Mais si vous êtes attentif, vous verrez que les choses peuvent changer. Le Seigneur ne veut pas non plus nous affoler, vous voyez. Donc, vous verrez bien ce qui se passera. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Tous! J'adore. Je trouve ça exceptionnel. Parce que parmi nous, il y en a toujours qui se disent « Ouais, moi, de toutes les façons, j'ai ce péché. C'est pas pour moi. Moi, de toutes les façons, je suis pas charismatique. C'est pas pour moi. Moi, de toutes les façons, je suis tradit. C'est pas pour moi. Moi, de toutes les façons, je suis ceci ou je suis cela. » Sous-entendu, ce qui est important, c'est moi. C'est ce que je pense de la situation. C'est mon analyse. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis payé toute la semaine, parfois très très cher. C'est moi. L'Esprit Saint s'opposait sur chacun d'eux et tous furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que leur esprit leur donnait de s'exprimer. Alors quand on entend ça, on se dit, mais donc ils se sont mis à chanter en langue. La glossolalie, vous connaissez par cœur, Saint Paul en parle. Hein. Mais je crois que c'est plus profond que ça. Peut-être. Mais je crois que c'est plus profond que ça. Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Un événement que vous connaissez par cœur. Il faut revenir 5 siècles avant Jésus-Christ. La construction de la tour de Babel. Vous irez lire ça. C'est dans Genèse 11, verset 4. Je ne vais pas vous lire le texte parce que après j'aurai plus le temps. Mais qu'est-ce qui se passe en gros? C'est un peuple qui aime Dieu, qui est pieux. Vraiment, ils aiment Dieu, ils sont pieux. Ils sont unis les uns aux autres, très unis, suffisamment unis pour décider eux-mêmes qu'ils vont construire une tour pour toucher Dieu. Ça va? C'est eux qui organisent leur système pour aller toucher Dieu. Et là où ça va commencer à mal tourner, c'est qu'ils vont décider de donner un nom à Dieu. Alors là, quand on commence à donner des noms à Dieu, en général, ne le faites pas, parce que Dieu se fâche. Il n'aime pas qu'on fasse les choses à sa place. Et surtout, c'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont en train de le remplacer. Alors, ce n'est pas que Dieu est jaloux de son pouvoir. C'est qu'ils vont aller droit dans le mur. Droit dans le mur. S'ils partent d'eux-mêmes, avec leur petit cerveau, leur petite compréhension de la vie, leur petit sens, leur petite analyse, leur petite etc., 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 s'ils ne partent que d'eux-mêmes, ils ne vont jamais arriver à Dieu. Ça ne marchera pas. Que fait Dieu? Il les divise. Ils ne parlent plus la même langue. Pourquoi il fait ça, Dieu? Il les désunit. pour qu'ils se retrouvent dans une situation de faiblesse communautaire. C'est pour ça que la faiblesse communautaire, c'est quelque chose de très important. Et je pense, c'est ma petite idée sur la question, que si notre Église vit en ce moment des choses difficiles, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose de l'ordre de la purification qui est en train d'arriver dans notre Église. D'ailleurs, on en voit déjà les premiers fruits, mais je passe. Dieu les fragilise. Mais à la Pentecôte, qu'est-ce qu'il fait ? À partir de lui-même, il leur donne son esprit. Et c'est son Esprit Saint, sa puissance d'amour, sa puissance de don qui va venir sur chacun. Et c'est cette puissance de don, cette puissance d'amour avec laquelle il aime le Fils, qui va venir en eux et qui vient en moi et qui change tout. Parce que ça va changer ma façon de voir Dieu. Ça va changer ma façon de voir mon frère, ma sœur. Ça va changer ma façon de voir mon curé, de voir son vicaire, de voir les diacres, de voir Shane, de voir tout le monde. Ça, notre regard va changer parce que ça va être un regard imbibé d'amour, une intelligence qui aura été transformée par l'amour, vous voyez. Et c'est déstabilisant au départ, mais quand on constate l'efficacité de cette affaire-là, c'est une source de joie ineffable, absolument ineffable. Nous les entendons annoncer dans notre langue la grandeur de Dieu, disent les apôtres, Dieu, sa gloire, sa grandeur et non la nôtre. Ils entrent dans la louange, tout simplement. Ils entrent dans la louange. Ils sont émerveillés. Dieu les a pris de rien, les apôtres, et Dieu les a guéri leur cœur, a ouvert leur cœur et leur a donné accès à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à maintenant. Et qui va leur permettre, d'une façon extrêmement concrète, de faire des choses nouvelles, tout de suite, sans avoir à passer une licence en théologie, sans avoir... On oublie ça. Ils n'ont pas fait de licence en théologie, les apôtres. Vous allez me dire, ils ont passé 3 ans avec Jésus. C'est vrai. Et donc, parfois, ils étaient un peu... Non, c'est vrai. Honnêtement, franchement. Parfois... Mais en fait, quel enseignement fantastique. Oui, quel enseignement fantastique. Alors du coup, une fois que ça, c'est arrivé, une fois que leur cœur a été transformé, qu'est-ce qu'ils font les apôtres ? Une chose que vous faites, que nous faisons, tous on le fait, tous. Celui qui ne le fait pas, c'est comme s'il n'existait pas pour moi. Tous, on se tourne vers l'autorité et on lui dit, que devons-nous faire ? Mes paroissiens, tout le temps, ils viennent vers moi et mon père, qu'est-ce qu'on doit faire ? Tout le temps, je leur dis, allons prier, allons réfléchir, allons machin, etc. Mais ils font la même chose avec Pierre. Bon, ok, on a reçu la Pentecôte, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On sent bien que l'action va enlever l'angoisse de cet état. Parce que vous savez, l'angoisse, c'est un état dans lequel on est quand tout est possible. Et ça disparaît quand il y a moins de possibilités. Mais là, tout est possible, donc ils ne savent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils vont voir Pierre, ils posent la question à Pierre. On voit ça en Actes, chapitre 2, verset 20, 37. Que devons-nous faire ? Réponse de Pierre. Ça, je trouve ça extraordinaire. Réponse de Pierre. Reconnaissez votre péché et ne recommencez pas. C'est calme. Pierre, il ne dit pas, maintenant, louange tous les jours. Il ne dit pas, chapelet obligatoire toutes les semaines. Il ne dit pas, faut faire ceci, faut faire cela, etc. Le premier truc qu'il leur dit, moi j'avoue que quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a un peu bouleversé. Il leur dit, vous êtes des pécheurs. Et donc, votre péché empêche l'Esprit Saint de faire tout son boulot en vous. Mettez-vous à genoux. Convertissez-vous. Bon, très bien. Et une fois qu'on s'est confessé, une fois qu'on a demandé pardon à Dieu, on n'est pas forcément obligé de se confesser. C'est bien d'aller se confesser, hein, mais Dieu nous entend quand on lui demande pardon. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas me confesser. Je dis simplement, qu'avant même que vous ayez envie d'aller vous confesser, au moment où vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous a entendu et Dieu a ouvert votre cœur. Bon, bref, première chose. Deuxième chose, encore un truc vachement banal qui peut nous paraître hyper banal. On se dit, bah, moi je voulais du nouveau, c'est un peu bas de gamme, quoi. C'est un peu... Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Alors moi, quand je dis ça, je me dis, mais bon, bah, je suis quand même baptisé, je suis baptisé, ça me concerne moyennement quand même. Et peut-être que certains d'entre vous, comme moi, se rappellent au Bourget, 1981, il pleut des cordes, et Jean-Paul II qui dit, France, fille aînée de l'Église, éducatrice des peuples, qu'as-tu fait de ton baptême? On est baptisé. Mais est-ce qu'on en vit? Est-ce qu'on pose des actes d'espérance, comme disait le Père tout à l'heure? Est-ce qu'on espère en Dieu? Est-ce que notre charité est vive? Est-ce que notre foi est ardente? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a un peu de boulot. Ça, c'est sûr et certain. Donc, le Seigneur, la deuxième chose qu'il nous dit à travers Pierre, vis de ton baptême, tout simplement. Il n'y a pas une activité à faire en plus, lundi, n'allez pas voir le curé pour lui dire « Mon père, après avoir reçu l'Esprit Saint, je pense que... » Si, c'est bien de le faire, mais vis de ton baptême. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, vous recevrez ce qu'on reçoit à la confirmation. Qu'on reçoit déjà au baptême et qu'on reçoit la confirmation, mais qui est quelque chose de peu connu, les dons du Saint-Esprit. C'est quoi les dons du Saint-Esprit? En français, ça ne marche pas très bien. Ce n'est pas évident de comprendre ce que c'est que les dons du Saint-Esprit en français. En revanche, je vous l'explique un petit peu. Imaginez un radar. Ça va, vous y êtes, un radar. Imaginez que ce radar, vous l'avez branché sur l'âme en permanence. Permanence, ça va? Pour être précis, les théologiens, saint Thomas d'Aquin, dit que le radar, il est entre les facultés, l'intelligence, la mémoire et la volonté, et les sens. D'accord? Il n'est pas branché au tout centre de l'âme, mais un peu plus loin dans notre âme. Bref, ce radar, c'est, quelle est sa fonction? Il s'appelle les dons du Saint-Esprit, mais le radar lui-même s'appelle les dons du Saint-Esprit. Ça va? La théologie dit que c'est une vertu passive. Un radar, c'est passif. Ça fait rien, un radar. Okay? Une antenne de télé, ça fait rien. Rien du tout. Ben, ces dons du Saint-Esprit, ils sont donnés à la confirmation. Et si vous priez l'Esprit Saint, ce qui va se passer, c'est que le radar, il va se mettre à tourner. Et le radar, il va s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint va agir sur le radar, puissamment. Et il va transformer votre être. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si vous priez l'Esprit Saint, je ne sais pas moi, imaginez que Romain a demain rendez-vous avec quelqu'un de très important dans sa boîte pour un contrat. Pas. Restons bas du sol. Enfin, je vais rester... Pardon pour le bas du sol. Là. Non, mais restons concrets. On ne va pas à Dieu sans être hyper concret dans l'incarnation, vous voyez. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je fais, moi, quand je vais rencontrer une personne où je pense que je ne vais pas être bon, ou je ne suis pas sûr de moi, ou je n'ai pas assez prié, vous voyez, ou... Je prie l'Esprit Saint. Avant de vous parler, je prie l'Esprit Saint. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait, l'Esprit Saint? Ben, il agit sur mon radar et il vient toucher en moi ce qui a besoin d'être transformé pour que je puisse vous parler, quand il s'agit de moi. Mais quand il s'agit de Romain, ben, ça va être de pouvoir être ajusté à la personne qui va rencontrer demain, pendant la réunion. Vous y êtes? Non mais c'est super efficace, c'est super impressionnant. Est-ce que ça veut dire que je vais cesser de réfléchir? Bien sûr que non. Mais l'Esprit Saint va agir sur mon intelligence. Mon intelligence va devenir plus rapide, plus intuitive, plus souple, moins fermée, plus ouverte, plus simple. Etc, 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 etc. Et du coup, comme disait le Père tout à l'heure, ben vous allez entrer dans l'espérance. Et ça, vous l'avez déjà fait, c'est évident. Entrer dans l'espérance, c'est-à-dire quoi? C'est espérer en Dieu quelque chose que je n'ai pas. Et bien, saint Paul dit, si vous espérez en Dieu quelque chose que vous n'avez pas, vous allez le recevoir. Thérèse de l'Enfant Jésus, que vous aimez bien, j'ai l'impression, qui est là-bas, près de l'autel. Thérèse de l'Enfant Jésus, un soir de Noël, qu'est-ce qu'elle fait? Son papa dit, « Ah, enfin, c'est la dernière année où on fait les cadeaux. » Parce qu'à 14 ans, dans la famille Martin, on ne fait plus de cadeaux. Ça marche? Donc, il est 1h du matin, M. Martin est crevé. Il est fatigué. Il se tourne vers sa sœur, vers sa fille Céline, et lui dit, « Ah, c'est la dernière année. » Thérèse entend. Elle montait les escaliers. Elle entend ça. Elle se vexe. Mais Thérèse, elle se vexe de tout. Et puis ensuite, elle se vexe d'avoir été vexée, elle pleure, d'avoir pleuré, et ça n'en finit plus, et ça pourrit l'atmosphère familiale. Sauf que là, en haut de l'escalier, elle espère en Dieu. « Seigneur, sauve-moi, ce soir c'est Noël, sauve-moi. Je veux redescendre l'escalier sans en vouloir à mon papa. » Et Dieu le fait. Et quand elle descend l'escalier, elle est sauvée, elle le sait. Elle va en parler après. Et du coup, elle a compris un truc, c'est que quand on demande quelque chose à Dieu, quand on espère en Dieu, Dieu donne. Mais du coup, quand vous avez reçu, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand vous leur donnez un bonbon? Première chose que tu dis, Louis, je t'ai déjà vu faire, t'exagères. Encore. Et du coup, on recommence. On pose un autre acte d'espérance. Et d'acte d'espérance en d'acte d'espérance comblé, et bien on devient un saint. Pas moi qui le dis, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, docteur de l'Église, patronne des missions. C'est exactement ce que vous vivez. On est au cœur de votre trajectoire spirituelle. C'est tout simple en fait. C'est l'Esprit Saint. Comme j'ai beaucoup aimé ce que disait tout à l'heure le Père, quand il dit « c'est un ami », c'est exactement ça. L'Esprit Saint, c'est un ami. Il agit constamment sur notre radar, sur notre être, à condition bien sûr qu'on s'ouvre à lui en permanence. Et quand ça devient une habitude, eh bien en permanence, on est dans la volonté de Dieu. Et croyez-moi, quand en permanence, on est dans la volonté de Dieu, on n'a plus peur, tout simplement, on ne craint pas. Même si on souffre toujours, bien sûr, même si avec Jésus, on est sur la croix, bien sûr. Même si parfois on a du mal à se comprendre et à s'aimer, bien sûr. Mais il y a une expérience qu'on fait avec l'Esprit Saint, c'est qu'il n'y a pas d'impasse. Il n'y a plus d'impasse. Alors, pour terminer, je vais raconter ce qu'on fait un petit peu dans ma paroisse, comment est-ce que l'Esprit Saint s'y est pris dans ma paroisse. Alors, dans chaque paroisse, c'est différent. Hein, mais surtout, ne clignez pas et ne dites pas « Ah, le Père, il a dit ça, il faut le faire ». Allez pas saouler le curé avec ça. Hein. C'est juste ce que je dis là, c'est juste une illustration pour vous montrer comment nous, comment moi, Antoine, l'Esprit Saint s'y est pris. Moi, la première fois qu'on a fait une prière à l'Esprit Saint en communauté dans ma paroisse, ce qui m'est apparu, c'est qu'il fallait que les choses soient extrêmement simples. Je ne veux pas, j'ai passé 15 ans de ma vie à faire du discernement au séminaire, je ne veux pas de trucs extraordinaires. Je veux l'ordinaire. Donc j'ai dit à Dieu, très bien, Seigneur, fais ce que tu veux. Moi, ce que je voudrais, c'est que la bénédiction soit une louange. C'est-à-dire que la bénédiction grandisse dans ma paroisse. Je voudrais que non seulement je puisse bénir davantage les gens, mais que les gens puissent se bénir entre eux et que les gens puissent me bénir. Voilà, Seigneur, c'est ça que je te demande. Moi, j'espère ça. Parce qu'il n'y a pas de raison, je ne suis pas au-dessus des gens, je suis à leur service, je leur donne Jésus, très bien, mais moi aussi, j'ai besoin d'être béni. Vous avez besoin d'être béni. Notre travail, c'est de vous bénir, c'est notre mission, soit, mais la bénédiction, ce n'est pas la propriété uniquement des prêtres. C'est très important d'entendre ça. Parce que si on ne le comprend pas, je pense qu'on ne peut pas être heureux. Il y a un gars dans l'Écriture, il s'appelle le tordu, Jacob. Je suis plus dans la limite là, il faut que je m'arrête. Bon, juste une petite histoire pour finir. Jacob, c'est le tordu. Jacob, il a piqué le droit d'aînesse à son frère qui s'appelle Ésaü. Et le Jacob, il a pris la bénédiction de son père, il a rusé, vous savez, vous irez voir dans l'écriture comment il a fait, mais il est pas content, il est mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire qu'il a peur. Comme les apôtres, il a peur. Pourquoi il a peur? Parce que Ésaü, c'est un gros costaud. Et Ésaü, il n'est pas content du tout que son frère lui ait piqué le droit d'aînesse. Et donc Ésaü cavale derrière Jacob. Vous voyez le truc? Et Jacob, il sait très bien que ça va mal se terminer. Il sait très bien. C'est un intellectuel, Jacob. Il ne va pas se bagarrer avec Ésaü, il va juste se faire écrabouiller par Ésaü. C'est un champion du monde du tir à l'arc, Ésaü, en plus. Donc qu'est-ce qu'il fait, Jacob? Il est malin, je vous ai dit. Il invoque Dieu. Et il dit à Dieu, « Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'es béni. » La bénédiction de son propre père ne suffisait pas. Il fallait la bénédiction de Dieu. Il fallait que Jacob, qui était tordu, je vous rappelle, il reçoive une bénédiction qui le rende droit et de son Père éternel. Et pour Jacob, il n'y avait pas d'autre solution, sinon il était en perpétuelle cavale. Hein. Il y a toujours Ésaü qui est derrière. Alors, pour nous, Ésaü, c'est qui vous voulez qui vous fait peur. C'est qui vous voulez qui vous empêche de vivre. Ouais, ça peut être votre conscience, ça peut être votre culpabilité, ça peut être dans le monde de la psychologie, mais ça peut être quelqu'un aussi, ça peut être votre patron, ça peut être je ne sais pas qui, vous avez un membre de la famille. Bénis-moi, Père, bénis-moi. Et il se bat avec Dieu. Parce que Dieu veut être sûr que pour une fois, Jacob, il n'est pas en train de ruser. Il n'est pas en train de s'organiser la victoire, vous voyez. Donc il y a bagarre. Et Dieu bénit Jacob, qui du coup ne s'appellera plus Jacob, mais Israël. Et Israël, vous savez ce que ça veut dire? Force de Dieu. Il a été transformé. C'est exactement la même chose que ce qui se passe à la Pentecôte. Tu reçois la force de Dieu. Vous allez recevoir la force de Dieu. Vous allez être renouvelé dans le don de l'Esprit Saint. Tout votre être, tout votre espace. Alors, vous voyez, une chose qu'on fait maintenant dans ma paroisse très, très facilement, si vous venez, vous le verrez, c'est que les gens se bénissent les uns les autres. Et puis, ils me bénissent quand je passe. « Oh, Père Antoine, tu as l'air un peu triste aujourd'hui. Je te bénis. » Alors, on ne fait pas des gestes comme ça. Hein. Je leur ai expliqué que ce n'était pas la peine de... Parce qu'une fois, j'en ai retrouvé un qui était devant l'arrêt de bus et qui n'arrêtait pas de bénir les autobus. Sérieux, sans blague. Mais vraiment. Mais c'est pas bête, hein. Sauf que j'ai eu un peu peur de la réputation de la basilique. Au bout d'un moment, je me suis dit, oh là, je vais finir à l'hosto. Mais simplement, vous pouvez regarder la personne, et puis au fond de votre cœur, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'êtes même pas forcé de regarder la personne. Vous la croisez, et au fond de votre cœur, je te bénis. Ça va très bien. Sauf que dans ma paroisse, pour montrer qu'ils sont mieux que les autres, ils font des grands gestes comme ça. Bon, c'est pas grave, ça va passer un jour. Mais du coup, quand on prie l'Esprit Saint, quand on a des assemblées de prière, quand il y a une chose qu'on fait au début de l'assemblée, c'est qu'on se lève tous. Les gens se lèvent. Comme vous allez pouvoir vous lever. Vous savez, la bénédiction, c'est ce que vous avez reçu au baptême, la force de Jésus. Hein. Vous avez cette capacité. Et la bénédiction, stricto sensu, quand vous bénissez quelqu'un, je bénis Romain, du coup, Dieu est obligé, au sens juridique. Donc quand je dis « Dieu Tout-Puissant, bénis Romain maintenant », n'attendez pas à ce qu'il se passe des trucs invraisemblables. Hein. Les cheveux vont pas repousser. Désolé, Malo. Mais Dieu va lui faire du bien. Quel bien? Je n'en sais rien. C'est lui qui va le découvrir. Moi, dans ma paroisse, les gens me disent « Ta bénédiction m'a fait du bien. » Bon, ok. Voilà. D'accord? Donc, on se bénit comme ça. Donc c'est une obligation. Ce qui fait que les enfants, si vous voyez votre papa un peu énervé le soir quand il rentre, petit peu énervé, vous vous dites, oula, papa il est un peu mouillé là, il est un peu énervé. Soyez malin. C'est pas le moment de l'approcher trop près, peut-être. Alors de loin, pour commencer, quand il rentre son scooter dans le jardin, tu dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens bénir papa tout de suite. Et la bénédiction de Dieu vient sur papa. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. C'est ce que nous enseigne l'Église, rien de plus, rien de moins. Et là, lui, en rangeant son scooter, tout d'un coup, il dit, ah, je suis content de rentrer à la maison. Et il ne sait pas que c'est sa petite fille, cachée derrière la fenêtre, qui vient de lui donner une bénédiction. Chers frères et sœurs, c'est pas compliqué. Et ça fait tellement de bien. Et c'est un fruit de l'Esprit Saint, direct, qui va nous entraîner petit à petit à ouvrir notre cœur, précisément à son action. Oui. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est que maintenant, si vous l'acceptez, bien sûr, on n'est pas du tout obligé de le faire, hein, c'est de vous tourner vers votre voisin et votre voisine. Voilà. Attendez que je vous le dise. Écoutez-moi d'abord. Et vous dites simplement à votre voisin et à votre voisine, je te donne la bénédiction de Dieu. Sois béni. Alors peut-être qu'il y a 2 heures, vous venez de vous engueuler et de vous foutre sur la gueule. Ça marche quand même. Ça marche quand même. Ça traverse. D'accord ? Je te bénis comme tu es aujourd'hui, comme tu es maintenant. Et puis après, si l'Esprit Saint dans votre cœur vous pousse à dire autre chose, ben faites-le. Attention, mesdames, c'est pas le moment de faire remonter des trucs d'il y a 10 ans. Non, parce que des fois, j'ai assisté à des trucs... D'accord, les messieurs sont capables de faire ça aussi. Donc vous tournez vers votre voisin, vers votre voisine, et vous vous bénissez comme vous êtes. Si la personne qui est à côté de vous, vous ne la connaissez pas, je vous demande une prudence toute simple, c'est de ne pas la toucher. On ne se touche pas. C'est important. Parce que vous ne savez pas comment l'autre, ce que l'autre vit. Et l'autre peut-être n'a jamais été touché. Alors si tout d'un coup, pour la première fois depuis 50 ans, vous le touchez, vous allez rentrer dans sa sphère, vous allez rentrer dans son espace. Et... soyons prudents. D'accord ? Alors ce que je vous propose maintenant, c'est pendant qu'on prend ce chant, nous nous bénissions les uns les autres, et alors après, vous pouvez aller bénir qui vous voulez. Ça va ?
Yeah.